en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
René Girard a été élu membre de l'Académie française à l'unanimité le 17 mars 2005. René Girard a été élu au 37e fauteuil, celui occupé auparavant par le père Ambroise-Marie Carré, qui lui-même avait succédé au cardinal Danielou. Ce même fauteuil avait été occupé par Bossuet au XVIIe siècle. C'est donc pour sa dimension spirituelle que René Girard a été choisi par les autres membres de l'Académie. Français de naissance, René Girard est né en Avignon en 1923. Il étudie à l'école des Chartes avant d'émigrer aux États-Unis où il devient professeur de littérature, notamment à l'université de Stanford. Auteur d'une vingtaine de livres, il écrit dans les deux langues, l'anglais et le français. Et parmi ses ouvrages les plus connus, on peut citer « La violence et le sacré » publié en 1972, que l'on peut considérer comme l'un des grands essais du siècle dernier qui a inspiré beaucoup d'historiens des religions. Autre ouvrage « Des choses cachées depuis la fondation du monde » publié en 1978, « Le bouc émissaire » en 1982, « Je vois Satan tomber comme l'éclair » en 1999, et on peut encore citer son dernier livre « Les origines de la culture » publié en 2004. René Girard étudie les pratiques collectives, mimétiques et finalement violentes, desquelles se dégage un consensus autour d'une victime bouc émissaire. Entre critique littéraire, explication des mythes, anthropologie et histoire des religions, sa théorie a été reprise par l'ensemble des sciences humaines. René Girard s'est donc vu remettre son épée lors d'une séance solennelle qui s'est tenue dans les salons de la Sorbonne le 8 décembre 2005. Et pendant cette séance, plusieurs personnalités ont pris la parole pour saluer le parcours de René Girard, parcours peu connu, comme le souligne d'emblée l'économiste Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et président du comité de l'épée de René Girard. Michel Albert a donc proposé une biographie du philosophe.
Je voudrais en premier lieu dire quelques mots sur votre parcours biographique. C'est un parcours au sens strict. Son trait dominant est la mobilité, à la fois géographique et professionnelle, qui fait contraste avec la continuité si profonde de votre pensée. Vous êtes né un jour de Noël à Avignon, ce qui fait que vous portez le prénom, le double prénom de René Noël. Votre père, chartiste, conservateur de la bibliothèque et du musée d'Avignon, était d'opinion anticléricale et de tendance radicale socialiste. Votre mère, elle, était catholique et de tendance royaliste, comme il était courant à l'époque. Et comme beaucoup d'enfants, vous avez cessé d'aller à l'église après votre communion et vous n'y avez, dites-vous, remis les pieds qu'à l'âge de 38 ans. Élève de l'école des Chartes, à l'exemple de votre père, vous la trouvez trop purement érudite. Vous aviez envie d'échapper, dites-vous, à la rigidité de l'administration française qui vous limitait aux débouchés prévus pour les chartistes et rien d'autre, c'est-à-dire à la perspective de faire toute votre vie un métier d'archiviste paléographe. Vous avez alors décidé de traverser l'Atlantique, ce qui était fort rare à cette époque, particulièrement chez les fonctionnaires. Recruté comme simple lecteur de français en 1947, vous êtes bientôt promu professeur de littérature dans une université américaine, sans avoir passé aucun diplôme à cet effet. Vous racontez même que vous avez commencé simultanément à lire et à enseigner Stendhal. C'est ainsi que vous exercerez successivement dans 6 universités américaines, dont celle de Stanford depuis 1980, où vous avez eu, notamment, parmi vos collègues, notre confrère Michel Serre, qui vous accueillera sous la coupole jeudi prochain, ainsi que Madame Condoleezza Rice, l'actuelle secrétaire d'État du gouvernement américain. Ces universités vous ont permis d'être le libre entrepreneur de votre activité intellectuelle, à la condition toutefois que celle-ci soit manifestement productive. Vous avez compris ce que cet impératif de productivité dans l'enseignement signifiait lorsqu'il vous est arrivé d'être destitué de votre chaire pour insuffisance de publication. Publish or perish. mais votre mobilité professionnelle ne s'est pas bornée à passer de la paléographie à l'enseignement du français et à celui de la littérature. L'étape fondamentale de votre itinéraire a eu lieu lorsque vous êtes devenu anthropologue. Comment ? Toujours en autodidacte. Sans jamais vous conformer aux disciplines d'aucune corporation, sans chercher votre voie parmi des enquêtes statistiques ou psychologiques, ni sur le fameux exotisme du terrain, n'est-ce pas ? Mais en continuant à rechercher la vérité sur l'homme dans des textes romanesques, mythiques ou religieux. C'est là que vous découvrez ce qui constitue, selon vous, le moteur principal des comportements humains, à savoir le mimétisme, universellement présent sous différentes formes et qui en dit plus que la science sur l'homme, son histoire et les origines de la culture, selon vous. Une si haute ambition, dont la visée première est de nous révéler les origines de toute civilisation, en particulier de la civilisation occidentale, se heurte naturellement à toutes les positions corporatives, à tous les droits acquis des autorités consacrées du monde intellectuel et universitaire. C'est ainsi que depuis plus de 40 ans, vous êtes un dissident des idées que l'on pourrait qualifier d'universitairement correctes. Dès 1961, année de publication de votre premier livre, aujourd'hui si célèbre, « Mensonges romantiques et vérités romanesques », au plus fort du courant marxiste et sartrien, vous prétendez démontrer que l'essentiel dans les sociétés humaines est d'ordre religieux. Puis, après votre propre conversion en 1970, vous osez proclamer que Jésus est bien le Dieu unique incarné pour le salut du monde. Après avoir publié en 1972 « La violence et le sacré », qui a été votre livre le mieux reconnu aux États-Unis, c'est en France, en 1978, que pour la première fois vous atteignez votre plus fort tirage, avec ce titre mystérieux et provoquant « Des choses cachées depuis le commencement du monde ». Ce qui est apparu de plus nouveau dans ce livre, c'est la partie centrale sur le christianisme. Vous apparaissiez, dites-vous, comme, je cite, « l'hérétique, le révolté qu'il faut être pour rassurer les médias ». Mais ce succès de librairie n'a toutefois fait qu'entretenir, voire renforcer, le silence à peu près total des milieux universitaires. Travaillant et publiant de près d'un demi-siècle à partir de votre méthode unique et de votre pensée aussi profonde que lumineuse, vous avez été traduit dans plus de 20 langues, étudié et discuté dans un nombre croissant de pays. Depuis 15 ans, une association internationale, le colloque sur la violence et la religion, qui est consacrée à l'étude de votre théorie mimétique, s'est réunie chaque année, alternativement en Amérique et en Europe. Elle a reçu plus de 1000 orateurs en provenance d'une trentaine de pays. Vous avez été nommé docteur honoris causa de toute une série d'universités appartenant pour la plupart, d'ailleurs, à l'Europe que l'on pourrait qualifier de lotharingienne. Hier encore, hier le 7 novembre, vous avez été fait docteur honoris causa de l'Université de Londres en attendant de l'être bientôt par l'Université de Tübingen. Mais, en France, rien de tel. Aucune institution universitaire, aucune école de pensée ne vous aura parallèlement reconnu avant que, par un éclatant retour des choses, le 17 mars dernier, l'Académie française elle-même vous apporte la plus éminente consécration à vous qui vous êtes toujours tenu à l'écart des corps constitués et de leur grandeur d'établissement. Et l'accueil que nous réserve si généreusement ce soir Monsieur le recteur chancelier des universités de Paris apparaîtra sans doute comme un clin d'œil du destin. À ce point, permettez-moi, cher René Girard, de me référer brièvement à l'un des passages de votre œuvre qui, à plusieurs reprises, m'a le plus vivement frappé. Il s'agit du jugement de Salomon. Chacun comprendra, j'espère, que si j'ai choisi ce texte, ce n'est point parce que nous sommes réunis ici pour une épée ici présente. Il y a bien d'autres raisons. Avant de vous avoir lu, le texte dit « Jugement de Salomon » me semblait quelque peu banal. J'y voyais une forme simpliste d'arbitrage, le partage par moitié-moitié que prononce l'arbitre quand il renonce véritablement à rendre la justice. En un mot, ce que dans le vieux français on appelait un jugement de paysan, c'est-à-dire toute sentence qui partage un différend par la moitié. Or, voici comment vous avez résumé la page que le premier livre des rois consacre à ce récit. Il s'agit de deux prostituées qui se disputent un tout petit enfant. Il propose de couper l'enfant en deux pour en donner la moitié à chacune des deux femmes. On atteint ici le point le plus tragique de ce que vous appelez la hiérarchie sacrificielle. C'est alors, ajoutez-vous, que l'une des deux mères accepte, mais l'autre refuse. Voilà en une seule ligne de 8 petits mots très simples, à la fois un concentré de la découverte anthropologique de René Girard et de la révélation chrétienne, me semble-t-il. L'une des deux femmes, je reprends votre formule en 8 mots, l'une des deux femmes accepte. Elle accepte que l'enfant soit passé par le fil de l'épée. Naturellement, nous en sommes scandalisés. Et pourtant, l'infanticide et plus largement le sacrifice humain se retrouvent fréquemment dans la plupart des sociétés archaïques et même chez les Hébreux, comme le montre bien le récit du sacrifice d'Isaac par Abraham. La réaction de cette mère, replacée dans le contexte anthropologique de l'époque, n'est donc pas aussi anormale que nous pourrions le penser. Au contraire, elle illustre d'une manière particulièrement frappante ce qui fait l'immense découverte de René Girard, à savoir le caractère universel de la violence mimétique qui constitue le trait commun des sociétés humaines. Ainsi, ce qui compte le plus pour cette femme, la mauvaise femme, ce n'est pas le sort de l'enfant, c'est, dites-vous, je cite, « de posséder ce que l'autre possède ». Elle accepte à la rigueur d'être privée d'enfant, pourvu que sa rivale en soit également privée. Ce qui compte pour elle, ce n'est pas l'enfant, c'est, dites-vous encore, je cite, « la fascination haineuse pour le modèle rival, le ressentiment qui recherche à abattre ce modèle et à l'entraîner dans sa propre chute s'il devient impossible de l'emporter sur lui ». Il y a un abîme entre le comportement de cette mère qui accepte le sacrifice de l'enfant et de l'autre qui refuse absolument le sacrifice de ce même enfant et préfère renoncer à lui afin de le sauver. Certes, là encore, a priori, on peut penser que ce comportement est assez normal. Il est conforme au sentiment de maternité qu'une mère soit prête, suivant l'expression courante, à se sacrifier pour son enfant. Mais pour comprendre ce que cela signifie en l'occurrence, il faut tenir compte de ce que, ajoutez-vous, la résolution soudaine de cette femme de renoncer à l'enfant risque fort d'être interprétée comme une injure faite au roi Salomon. C'est donc sa vie même qu'elle expose. Mais ce n'est pas son problème. À aucun moment, elle ne met en balance sa vie personnelle avec celle de l'enfant. Elle est prête, s'il le faut, je vous cite, à mourir pour le sauver lui-même de la mort. À quoi cela peut-il faire penser, si ce n'est au sacrifice même du Christ sur la croix? Oui, en voilà une révélation que celle qui désigne le sacrifice au sens nouveau et le plus élevé qui soit de cette prostituée christique. La première prostituée incarne le sacrifice traditionnel, le sacrifice meurtre d'un innocent. La seconde prostituée, la prostituée christique, incarne le sacrifice don de soi qui sauve autrui. Vous avez ainsi pu écrire l'histoire morale de l'humanité est le passage du premier sens au second sens du mot sacrifice, le sacrifice accompli par le Christ. Et vous montrez enfin que par un paradoxe extraordinaire, Le sacrifice du Christ présente en ce début du XXIe siècle une incomparable signification. Alors même que la pratique de la religion chrétienne est en pleine régression dans la plus grande partie de l'Occident, ce même Occident révèle implicitement ses racines les plus profondément chrétiennes. En effet, notre culture contemporaine s'attache, dans une mesure de plus en plus large, à la reconnaissance et au respect des victimes, victimes de l'Holocauste, victimes des guerres, des persécutions, victimes des injustices sociales et des discriminations de toute nature. Or, vous ne cessez, René Girard, de répéter que c'est le christianisme qui a placé la victime innocente au cœur de notre civilisation et que c'est là ce qui désigne le progrès fondamental de l'histoire humaine.
Après l'allocution de Michel Albert, voici l'intervention de l'anthropologue Jean-Pierre Dupuis. Jean-Pierre Dupuis est professeur à l'École Polytechnique. Il est ami et collègue de René Girard à l'Université de Stanford aux États-Unis. Jean-Pierre Dupuis travaille sur les thèses de René Girard depuis 25 ans. Il les enseigne et il a écrit plusieurs livres sur la question. Il a en particulier approfondi le concept de mimétisme. Jean-Pierre Dupuis a donc proposé une vision de René Girard aux États-Unis.
Je voudrais dire en commençant la reconnaissance que j'éprouve pour l'honneur qui m'est fait de participer à cette cérémonie. Je dois ce privilège, je pense, à la longue amitié personnelle et intellectuelle qui me lie à René Girard. Quelqu'un devait évoquer ici la carrière américaine du professeur René Girard, et cette tâche m'a été réservée. Lorsque Michel Albert s'adressa à moi, je fus flatté, certes, mais aussi bien embarrassé. René, professeur, mais je le vois surtout comme un génie créateur. René en Amérique, mais sa théorie, son hypothèse, comme il dit modestement, n'est-elle pas universelle? Et le lieu où elle a germé a-t-il donc la moindre importance? En réfléchissant davantage, je me piquais au jeu. Oui, ces questions sont intéressantes, et voici ce que je peux en dire. René en Amérique. Je devine que M. Fumaroli, entendant ces trois mots, songe à un autre René, François-René de Chateaubriand, qui écrivait dans son introduction au voyage en Amérique, je cite, « Aujourd'hui, que j'approche de la fin de ma carrière, je ne puis m'empêcher, en jetant un regard sur le passé, de songer combien cette carrière eût été changée pour moi si j'avais rempli le but de mon voyage. Il est probable que je n'aurais jamais eu le malheur d'écrire. Mon nom serait demeuré inconnu, où il s'y fût attaché une de ces renommées paisibles qui ne soulèvent point l'envie, et qui annonce moins de gloire que de bonheur. » Fin de citation. René, notre René, René Girard, m'a confié récemment qu'il n'aurait sans doute jamais rien écrit s'il n'était pas passé en Amérique. Pour notre malheur, et le malheur de la pensée, il n'eût point alors connu la gloire qu'il accueille aujourd'hui, il n'eût pas suscité l'envie qu'il a par ailleurs si magistralement analysée. Je me posais donc la question, qu'est-ce qui, dans l'Amérique, fait que René Girard a pu y inventer la théorie mimétique et sacrificielle? J'examinais diverses hypothèses. Le fait que l'Amérique, championne de la mimésis, constitue un laboratoire anthropologique inespéré, maints bons auteurs ont écrit à ce sujet. Tocqueville, la foi dans l'opinion commune est devenue en Amérique une sorte de religion dont la majorité est le prophète. Keynes, on passe son temps en Amérique à deviner l'idée que l'opinion moyenne se fait de l'opinion moyenne. What average opinion believes average opinion to be. N'était-ce pas au contraire que l'Amérique possède cette innocence de l'enfance que René dit n'avoir jamais perdue? J'ai eu une enfance très heureuse, confie-t-il dans un entretien récent, et j'ai toujours eu le sentiment profond de transporter mon enfance avec moi. Ceux qui aujourd'hui conspuent l'Amérique devrait se souvenir qu'un philosophe chrétien comme Jacques Maritain a pu voir en elle le pays de la Providence. Un jour de 1940, alors qu'il se trouvait à Washington, dans une grande détresse personnelle, il fut servi par une fille de salle qui arbora pour lui, je cite, « le plus suave sourire anonyme américain ». Maritain ne fut pas dupe. Il savait parfaitement, je cite, que c'était là pure illusion, quelque chose d'aussi irréel que le sourire d'un chat absent. Et pourtant, je continue de le citer, J'ai soudain pris conscience de la signification de ce symbole. Je suis reconnaissant à cette serveuse de m'avoir aidé un jour contre le désespoir. À l'arrière-plan du sourire anonyme américain, il y a un sentiment d'origine évangélique, la compassion pour l'homme, le désir de lui rendre la vie tolérable. Fin de citation. N'y a-t-il pas là, c'est une question que je pose à René Girard, une possible sortie de l'enfer mimétique ? Il ne me contredira peut-être pas, lui qui citait récemment la camaraderie qu'il a connue dans l'Avignon de son enfance, pour dire que toutes les relations humaines ne sont pas prises dans les raies du désir mimétique. Il m'a paru soudain qu'aucune de ces hypothèses n'était la bonne, et que la réponse à la question posée était beaucoup plus simple. Si René Girard a inventé la théorie mimétique en Amérique, c'est qu'étant en Amérique, il n'était pas en France. Un de ses anciens étudiants lui faisait remarquer, je cite, « Dans votre travail comme dans votre vie, on trouve en permanence ce sentiment que vous avez de ne pas faire partie de votre entourage. À Avignon, vous n'étiez pas à l'aise parmi vos amis. Européen exilé aux États-Unis, vous avez ressenti ce que c'est qu'être un étranger. » Fin de citation. René Girard répondit, « Il est vrai que je suis une sorte d'électron libre, mais je ne me sens pas exclu. » Il ajoute, « C'est sans doute la raison pour laquelle je n'ai jamais réussi à perdre l'accent français. » Il ajoute aussi, « Je ne suis pas un marginal, au sens classique du mot. Je ne me suis en effet jamais senti rejeté, comme tant d'intellectuels qui aiment donner d'eux cette image. » Je voudrais vous inviter à réfléchir un instant sur la situation particulière qui est ainsi décrite. René Girard échappe-t-il au désir mimétique ? Le supposé serait contradictoire avec la théorie du même nom. Celle-ci, nous dit Girard, je cite, « ne comporte aucune exception. Elle renonce à la distinction romantique entre l'authentique et l'inauthentique. Cette distinction correspond à un désir inauthentique, mimétique, chez l'observateur, de s'accepter lui-même de la loi qu'il découvre. » Fin de citation. Il n'y a par conséquent d'accès à la vérité de la théorie mimétique que par une conversion préalable, je cite, « parce que l'essentiel pour chacun est de prendre conscience de son propre désir mimétique. » Fin de citation. On a donc de bonnes raisons de penser que l'inventeur de la théorie mimétique est un être hypermimétique qui a réussi à opérer cette conversion. Et qu'une condition de possibilité nécessaire mais non suffisante en aura été cette position de non-enracinement sans sentiment d'exclusion qu'il a trouvé en quittant la France. On songe évidemment aussi à Simone Veil. Dans l'un de ses plus beaux textes, René Girard déconstruit l'étranger de Camus en termes d'auto-exclusion. Comme tout boudeur, Meursault veut donner de lui-même l'image d'un être solitaire et marginal. Encore faut-il que les autres partagent cette représentation. L'étranger doit donc communiquer sa rupture de communication. Paradoxe étrange de la mauvaise foi qui ne peut se résoudre que dans un acte incompréhensible. Meursault tire sur l'arabe avec un détachement extrême. C'est négligemment et comme par inadvertance que l'enfant met le feu au rideau. Ce geste ne devrait en principe avoir aucune importance, puisque c'est sa marginalisation et sa différence qui valent au sujet le châtiment qu'ils font sur lui, et non le geste en question. C'est pourquoi il le commet comme s'il ne le commettait pas. Il ne s'en sent pas plus responsable que d'un hasard ou d'une manifestation du destin. Sans ce non-acte, cependant, jamais la représentation ne se serait faite réalité. Cette logique a aujourd'hui envahi notre monde. Partout, on voit des êtres humains qui sont prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour faire le plus de mal possible à leurs semblables. Et cela en revendiquant le statut de victime. L'universalisation du souci pour les victimes révèle de la façon la plus éclatante que la civilisation est devenue une à l'échelle de la planète tout entière. Partout, c'est au nom des victimes que les autres ont réellement ou prétendument commises, que l'on persécute, que l'on tue, que l'on massacre ou que l'on mutile. C'est par exemple, selon Al-Qaïda, en bonne logique, au nom des victimes d'Hiroshima que les kamikazes islamiques ont frappé l'Amérique. Voilà bien une perversion abominable de ce souci pour les victimes qui, selon Nietzsche, le plus antichrétien des philosophes, est la marque du christianisme et de la morale d'esclave qu'il a enfantée. À quoi l'on peut répliquer bien sûr par le mot de Chesterton, repris par Bernanos, que, en effet, je cite, « le monde moderne est plein d'idées chrétiennes, devenues folles ». S'éclaire peut-être ici cette phrase terrible de l'Évangile, N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. » Matthieu 10, 34. Il paraîtrait que le communautarisme, mot soit dit en passant qui est tout à la fois un anglicisme et un contresens, il paraîtrait que le communautarisme menace notre belle République. L'essentiel du débat politique tourne aujourd'hui dans notre pays autour de la question « Faut-il laisser dériver notre modèle dans la direction d'une société multiculturelle à l'américaine ou bien faut-il se battre pour défendre nos valeurs d'intégration et de laïcité ?» Je dois vous avouer qu'à lire la presse française ces jours-ci, j'éprouve le désagréable sentiment de ma parfaite stupidité. Tel qui se croyait progressiste et catalogué comme nouveau réactionnaire, tel qui se bat au nom de l'antiracisme apparaît comme suprêmement raciste aux yeux des autres, etc. Je n'y comprends plus rien. Ou plutôt, je me console en me disant que nous sommes entrés dans l'ère de ce que René Girard appelle la violence essentielle, lorsque les hiérarchies s'inversent et les différences s'affolent. Il n'y a plus de différence, car les violents se ressemblent d'autant plus qu'ils veulent se distinguer les uns des autres. Le choc des cultures, Girard n'y croit pas le moins du monde. En conclusion des choses cachées depuis la fondation du monde, il écrivait, je cite, « Sur les conjonctions inouïes dont nous sommes les témoins, sur le rassemblement toujours plus effectif de l'humanité entière en une seule société, il n'y aurait donc rien à dire de décisif, rien même de pertinent. » Et il en appelle à, je cite, « une réflexion qui aborderait enfin de front l'énigme d'une situation historique sans précédent, la mort de toutes les cultures. » Quant à la prétendue altérité des terroristes du 11 septembre, voici ce que René Girard en disait, je cite. « De tous côtés, on prétend expliquer par des traditions ancestrales des phénomènes qui s'enracinent au contraire dans la perte de ces traditions, et cette perte reste jusqu'ici sans aucune contrepartie. La haine de l'Occident et de tout ce qu'il représente provient non pas de ce que son esprit est vraiment étranger à ses peuples, non pas de ce qu'il s'oppose réellement au progrès qu'au contraire nous incarnerions, mais de ce que l'esprit concurrentiel leur est aussi familier qu'à nous-mêmes. Loin de se détourner de l'Occident, ils ne peuvent pas s'empêcher de l'imiter, d'adopter ses valeurs sans se l'avouer à eux-mêmes, et ils sont tout aussi dévorés que nous le sommes par l'idéologie de la réussite individuelle ou collective. » Fin de citation. Non, la conversion dont parle René et le déracinement qui l'accompagne n'ont rien à voir avec la logique vicieuse de l'auto-exclusion. Le sacrifice de ceux qui se font sauter pour tuer leurs frères humains est la caricature monstrueuse des sacrifices du Christ. Deuxième point, le professeur René Girard. Je pourrais rappeler que René est un excellent professeur, adoré par ses élèves, et qu'il a formé une pléiade de penseurs de toutes sortes qui poursuivent son œuvre en Amérique, en France et dans le monde. Tout cela est vrai, j'en témoigne, mais je devine que Michel Albert s'attend à ce que je dise quelque chose de plus recherché. Je me risquerai donc à dire ceci, il est impossible d'enseigner la théorie mimétique, tout du moins de l'enseigner comme on enseigne les mathématiques, la biologie ou l'histoire. J'avancerai trois raisons. La première raison découle de ce qui précède. Sans engagement personnel, nul ne peut comprendre ni reconnaître les mécanismes de la mimésis tant ils sont protéiformes. C'est dans sa chair qu'on éprouve la vérité et la force de la théorie. René Girard écrit quelque part « Je suis très curieux et de toute évidence, la curiosité et la compréhension sont liées. J'ai toujours l'impression que le livre que je suis en train de lire va bouleverser mon existence entière. » Nous sommes nombreux dans cette salle, j'en suis sûr, à pouvoir dire que notre existence entière a été bouleversée par la lecture de Mensonges romantiques et vérités romanesques et de La violence et le sacré. La deuxième raison a trait à l'ère du temps. Seul un insensé, ignorant tout des normes de la recherche en sciences humaines, peut aujourd'hui proférer les énormités suivantes. En dépit, ou plutôt du fait même de son bruit et de sa fureur, l'histoire de l'humanité, prise en sa globalité, a un sens. Ce sens nous est aujourd'hui accessible. La science de l'homme est possible, mais ce n'est pas l'homme qui l'a faite. Elle lui a été donnée par une révélation divine. La vérité de l'homme est religieuse. La religion est avant tout science de l'homme. C'est vrai de toute religion, mais une seule possède sur le monde humain, et donc sur toutes les religions qui l'ont précédée, le savoir de la vérité. C'est le christianisme, en tant qu'il se fonde sur les évangiles, c'est-à-dire sur les récits de la mise à mort et de la résurrection du Christ. Girard y insiste, la supériorité du christianisme s'apprécie avant tout en termes de puissance intellectuelle. Depuis le XVIIIe siècle, on juge la religion du crucifié battue à plate couture, et les chrétiens se tiennent eux-mêmes pour des salauds et des imbéciles. Relevez la tête, leur dit Girard, parce que votre foi vous donne une raison infiniment supérieure à toutes les sciences humaines, mais pas trop cependant, parce que cette raison, précisément, n'est pas vôtre, elle vous a été donnée et elle vous dépasse de toutes parts. Nous célébrons aujourd'hui René Girard en grande pompe, fera encore plus jeudi prochain, mais il ne faut jamais oublier l'incroyable ostracisme dont son œuvre est l'objet dans l'establishment universitaire. Pas de langue de bois ici. Je connais maints collègues qui, bravant l'interdit et s'inspirant des idées de Girard, trouvent prudent de n'en rien dire. Avant que chante le coq de la Sorbonne, ils auront protesté trois fois plutôt qu'une « Je ne connais pas cet homme ». Le plus fort, c'est que la théorie girardienne se paye le luxe d'expliquer et de prévoir la violence même du rejet dont elle fait l'objet. Faut-il ici citer Jean 12, 37, 43 ? Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas de peur d'être exclus de la synagogue, car ils préfèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Fin de citation. La troisième et dernière raison, j'en terminerai, tient à la structure même de la théorie, qui ressemble à une pyramide qui reposerait sur sa pointe. Tout découle de l'hypothèse mimétique. Mais cette apparente simplicité est trompeuse. Ce que beaucoup de lecteurs ont du mal à percevoir et à comprendre, c'est l'incroyable pouvoir morphogénétique de l'hypothèse, c'est-à-dire sa capacité à produire constamment de nouvelles formes de plus en plus complexes et diverses. J'ai consacré avec d'autres chercheurs de nombreux travaux à éclairer ce point qui relève de la logique et de l'épistémologie et qui rapproche la théorie girardienne des théories physiques les plus avancées. En 1915, Einstein eut une idée géniale qui d'un coup résolut les apories sur lesquelles butait la physique newtonienne de l'époque. Il comprit que la gravitation n'est pas une force, comme Newton l'entendait, mais la conséquence de la géométrie courbe de l'espace-temps. Qu'un corps puisse exercer à distance une influence sur un autre corps lui parut relever de la magie et même de la croyance en une causalité diabolique, celle qui nous fait attribuer les maux qui frappent un individu ou une communauté à l'intention mauvaise d'un méchant. Bref, la mécanique newtonienne, vue du point de vue d'Einstein, est l'héritière de la logique du bouc émissaire. D'un coup, Einstein sortit de cet univers traditionnel et ouvrit des perspectives radicalement nouvelles. Le choc fut immense et nous en tremblons encore. Or, ce que nous saluons, cette année d'ailleurs, chez un génie de la science de la nature, nous le refuserions à un génie de la science de l'homme, que je me permettrai d'appeler ici l'Einstein du monde moral. Je termine. Et si c'était vrai, si Girard avait touché juste, non seulement dans sa théorie du désir et dans son anthropologie de la violence et du sacré, de plus en plus nombreux aujourd'hui sont ceux qui les acceptent, mais aussi et surtout dans sa théologie. Ce qui m'a toujours gêné, pour parler franchement, dans le Dieu girardien, c'est qu'il s'intéresse trop exclusivement à nos petites affaires. Si Dieu existe, je l'imagine plus préoccupé des quarks et des galaxies que de nos dérisoires querelles de famille, fussent-elles l'unique bois dont l'histoire humaine se chauffe. Je me plongeais l'autre jour dans le dernier ouvrage du prix Nobel de physique Steven Weinberg, ce théoricien du Big Bang, qui soutient que nous sommes aujourd'hui très proches de la connaissance des lois ultimes de la nature. Le plaidoyer de Weinberg est en partie intéressé. Il défend la poursuite des recherches sur les particules élémentaires contre la nouvelle mode en physique qui a nom « complexité ». L'étude des systèmes complexes a l'avantage de coûter beaucoup moins cher parce que ces systèmes se situent, un tourbillon par exemple, à notre échelle, quelque part entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je tombe sur le chapitre où Weinberg prend à partie le théoricien du chaos, James Gleick, sur la question du réductionnisme. Le livre me tombe des mains lorsque je découvre que Weinberg consacre plusieurs pages a réfuté l'assertion suivante de son adversaire. Je cite. Il y a des lois fondamentales des systèmes complexes qui s'évanouissent dès lors que l'on se fixe sur leurs constituants individuels. Exactement de la même manière que la psychologie d'une foule en train de lyncher un innocent s'évanouit lorsqu'on interviewe les participants individuels. Fin de citation. Mon Dieu, aurais-tu donc placé le mécanisme sacrificiel jusqu'au plus intime des constituants ultimes de la matière ? Je vous remercie.
Jean-Pierre Dupuis, ami et collègue de René Girard à l'université Stanford aux États-Unis. Suite à l'intervention de l'anthropologue Jean-Pierre Dupuis, voici l'académicien Marc Fumaroli. Marc Fumaroli est membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a beaucoup œuvré à l'élection de René Girard à l'Académie française. Cet écrivain propose un regard sur René Girard en tant que critique littéraire et apologiste du christianisme.
Mon cher René Girard, vous m'avez demandé, d'une manière charmante, puisque vous êtes un doux, en dépit de l'épée dont je vais vous régaler tout à l'heure, vous m'avez très gentiment demandé de prononcer les paroles qui précèdent rituellement une remise d'épée d'académicien français. Et cette salle, comme chacun sait, a souvent été le lieu où de tels rites ont été accomplis, sous les yeux, naturellement, du fondateur et de la Sorbonne et de l'Académie française. Nous venons d'entendre, de la part d'un éminent anthropologue, une vue d'ensemble de votre contribution à la science de l'homme. Il me revient aujourd'hui, dans ce rite préliminaire, de dire brièvement le sens symbolique de l'épée pacifique que vous offrent vos amis, sollicités par les nombreux et prestigieux membres du comité qu'a présidé M. Michel Albert. Dans un texte visionnaire et prophétique que vous avez souvent médité, cité, et que vous avez même pris l'un de vos titres, « Je vois Satan tomber comme l'éclair », il est question d'épée, non au sens propre, mais au sens figuré qui nous intéresse justement ce soir. Il avait, écrit Saint Jean, du Seigneur de l'Apocalypse, en sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée à deux tranchants. Épée du jugement, puisqu'il s'agit du jugement dernier, mais aussi croix de la grâce. L'épée, c'est aussi une croix. Et en ce sens, je pense qu'elle vous était particulièrement destinée. Le verbe qui jaillit dans le texte joannique à l'image de l'épée tranche dans le vif, non pour blesser et tuer les corps, bien sûr, mais pour faire discerner à l'esprit la vérité de l'erreur, le pur de l'impur et le sacré sanglant du saint selon le sermon sur la montagne. C'est un verbe qui ne procrastine pas, qui ne temporise pas, qui se passe de détour et ne cherche pas d'alibi. Il crée l'évidence sans chercher à persuader. Bossuet et Pascal ont longuement mûri leurs pensées avant de trouver ces raccourcis, cette densité de l'expression dont vos lecteurs ont souvent été frappés et que les entretiens récents que j'ai pu lire de vous, bien que vous ne haussiez jamais le ton et ne sortiez jamais de la simplicité naturelle de la prose, ont apprécié et ont profondément goûté. J'aurais voulu, si j'avais eu le temps, mais je ne veux pas vous accabler davantage, trop longtemps en tout cas, vous proposer une méditation sur le fait que vous sortez d'une des deux grandes écoles littéraires françaises, c'est-à-dire l'école des Chartes. Mais vous en sortez un peu comme un autre de vos prédécesseurs, devenu grand écrivain et obsédé lui aussi par le problème religieux, ayant écrit un des grands livres sur les exercices spirituels, peut-être athée, mais en réalité d'un athéisme qui ressemble beaucoup au théisme catholique. Je veux parler de Georges Bataille. Je ne peux pas naturellement m'étendre sur ce parallèle qui serait très intéressant à développer. Je ferai simplement remarquer que l'école des Chartes étant l'héritière laïque sans doute, mais l'héritière de la grande école bénédictine d'érudition, il n'est pas étonnant donc que cette tradition de science catholique, si j'ose dire, et ensuite luthérienne ou protestante, mais dans le cas de l'école des Chartes, essentiellement de philologie et d'historiographie érudite, est une appétence, en quelque sorte, chez ces esprits les plus exceptionnels, les plus à part, les moins dociles, les moins disposés à devenir modestes et souvent très profonds et très remarquables conservateurs de bibliothèques. Dans votre cas, comme dans celui de Georges Bataille, il me semble que c'est aller au fond de l'inspiration de la science chartiste que de se poser les problèmes de type théologique que vous vous êtes posés. Néanmoins, je dois parler avant tout ce soir de critique littéraire. Et en effet, votre réputation s'est établie d'emblée avec un livre de critique littéraire qui ne refusait aucun détour de la démonstration et de l'analyse et qui ne brandissait pas l'épée flamboyante de l'archange Saint-Michel. C'était mensonge romantique et vérité romanesque. On en a déjà plusieurs fois cité le titre ici. Il est vrai que ces exercices de lecture approfondis tranchaient sur la parade intimidante d'ingéniosité théorique qui épatait la foule littéraire française des années 60. La nouvelle critique, tout en interdisant aux romanciers de commettre la gravissime erreur reprochée à Mauriac par Sartre, celle de se croire le dieu omniscient de ses personnages marionnettes et de leur intrigue, abondait elle-même en petit dieu de la textualité qui se targuait d'omniscience sur le secret formel et surtout sur l'inconscient pulsionnel des textes qu'ils considéraient comme ayant réchappé grâce à eux de leur auteur marionnette. Le dogme de la mort du sujet, lié naturellement à celui de la mort de Dieu, voulait que l'auteur, vraiment moderne, s'absentât de son texte, mais que la critique scientifique, en revanche, en se substituant à Racine, à Balzac ou à Dostoïevski, se fit le deus ex machina du texte évacué de son encombrante auteur. La métaphysique de ces jeux de société sophistiqués, élevés médiatiquement à Paris au rang de révolution de l'intelligence des textes, fit un malheur sur les campus les plus élégants d'outre-Atlantique, comme vous le savez, où la French Theory propulsa de grandes carrières universitaires et alimenta ce publish and perish, dont on a tout à l'heure parlé aussi, des University Press et des nouvelles revues créées et cotées pour l'ésotérisme de la théorie. Je ne veux pas aller plus loin sans risquer de froisser votre naturelle modestie. Aussi vais-je cesser de m'adresser à vous à la deuxième personne du pluriel, et je vais demander de vous boucher les oreilles et de me laisser le temps très bref qui me reste pour dire en toute liberté mon sentiment devant le nombreux public qui est venu pour vous faire fête ce soir. Il était d'autant plus étonnant à la fin des années 60 que nous vînt de Stanford et d'un auteur français étranger aux emballements parisiens un livre de critique littéraire qui, tout en rompant avec ce que l'historicisme de la critique de la Sorbonne pouvait avoir d'un peu desséché ou d'un peu poussiéreux, est susceptible par là, comme il advint d'ailleurs, de séduire certes les esprits les moins étroits de la nouvelle critique, prenait néanmoins le contre-pied de celle-ci et de son propre scientisme. René Girard ne prétendait pas, en effet, en savoir plus sur leurs romans que Cervantes ou Madame de Lafayette ou Stendhal ou Flaubert ou Musil ou Nabokov. Au contraire, il souhaitait retrouver et faire retrouver, selon leurs propres intentions, la vérité qu'ils avaient voulu, par la voie du récit romanesque, rendre évidentes à leurs lecteurs. Il les confirmait, ces auteurs, dans leur statut de poète, dans leur statut de déniaiseur, en les opposant aux romanciers romantiques, au sens élargi, aux romans de chevalerie et aux romans naturalistes que vous avez donné à cet adjectif. Cela, ces romantiques flattent leurs lecteurs en les confirmant dans une vue mensongère et illusoire du monde meurtrier des passions humaines. Je ne crois pas simplifier à l'excès les analyses de René Girard en soutenant que le désir mimétique, le désir triangulaire qu'il met en évidence dans les intrigues de romans romanesques suppose, chez le critique comme chez les auteurs qu'il admire, une commune prémisse. Dénié par les romanciers romantiques de tout acabit, de toutes époques, celle du péché originel. Et la même structure mère biblique, celle du triangle Ève, Adam, Lucifer. Triangle fécond, si j'ose dire, inépuisable même, tant infinies sont ses variantes et ouvertes sa combinatoire, mais confirmant par ses occurrences chez les modernes inventeurs de mythes, dans les langues et dans les temps les plus divers, la vérité sur le désir humain qu'énonce le récit de la Genèse et que dissimule la théorie de l'amour anamnèse selon Platon ou celle de l'amour fou selon Breton. L'œuvre dramatique et lyrique de Shakespeare, soumise ensuite par René Girard à l'analyse structurale qu'il avait mise au point pour le genre du roman, a étayé avec une sorte de surabondance pantagruélique, une sorte de joie de voir en quelque sorte cette vue essentielle, cette vue originelle, confirmée par un des plus grands génies de la littérature occidentale. Eh bien, cette analyse, cette œuvre dramatique et lyrique de Shakespeare, a étayé, si vous voulez, la justesse théologique du point de vue impavide, adopté dès le premier livre, c'est-à-dire « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Sans le chercher, Girard avait retrouvé, en éclairant le mystère du péché originel par les chefs-d'œuvre de la littérature laïque, et non pas par la tradition, la haute tradition théologique qui l'explicitait, la méthode des humanistes du XVIe siècle, qui montraient, dans les mythes du paganisme, en particulier ceux d'Ovide, les ruines d'une révélation originelle restaurée et éclairée par la révélation biblique et encore portée, si vous voulez, à la suprême limpidité par la révélation évangélique. Avec La violence et le sacré, publié en 1972, René Girard a semblé sortir de la critique littéraire pour entrer en fanfare dans l'anthropologie, passant pour traître aux yeux des anthropologues et passant, au fond, pour un néophyte ou un amateur pour d'autres. En réalité, ces frontières jalouses entre disciplines sont des fictions administratives et les analyses que Girard, critique littéraire, avait proposées déjà de Cervantes, puis de Shakespeare, de génies essentiellement chrétiens, sinon christiques, contenaient en germe la vision d'anthropologie religieuse qui s'est déployée pleinement et pour elle-même dans La violence et le sacré. Chez Cervantes, comme chez Shakespeare, en effet, ni le désir mimétique, ni le jeu de miroir pervers, contagieux et déconstructeur, si j'ose dire, qu'il induit, ne sont pas une fatalité universelle et inéluctable que seul peut provisoirement ralentir le lynchage collectif d'un bouc émissaire. Les miroirs du grand art chrétien et du grand art romanesque chrétien, en dévoilant en pleine lumière ce cercle vicieux, éveille du même mouvement à la présence latérale d'un mystère de grâce. N'oublions pas que Cervantes répand, à la fin du second Quichotte, sur le lit de mort du chevalier à la triste figure, une lumière qui en fait presque un second Christ. Et quant au barde anglais, le dénouement de ses dernières comédies, les plus étranges, les plus déconstruites, et en même temps celle où surgit peut-être le mieux cette rencontre entre la fatalité apparente, en quelque sorte, du malheur et du meurtre, et puis la grâce qui renverse complètement les données initiales, marque effectivement que la littérature avait très bien compris le message évangélique. Dans le sacrifice de la croix, où la toute-puissance du Dieu biblique, non contente d'avoir donné la loi à l'humanité pécheresse, et donc d'avoir contenu un peu, et même beaucoup, sa propension à l'autodestruction, va jusqu'à s'offrir humblement elle-même en bouc émissaire innocent et absolu, sacrifié une fois pour toutes, afin de rendre caduque la double fatalité humaine, trop humaine, du meurtre et des sacrifices sanglants. René Girard montre l'aurore moderne d'une ère de grâce, mais paradoxalement contemporaine, pour lui, comme pour Dostoïevski, d'un contre-courant nocturne, inouï, inconnu des anciens, d'une dénégation puissante, croissante et féroce, déchaînée contre l'économie du salut, une apocalypse. La modernité, pour Girard, peut se résumer dans la prophétie terrible de celui qui, par ailleurs, a prononcé le serment de la montagne, et M. Dupuis a déjà prononcé, a cité cette extraordinaire parole qui est la clé de notre monde, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Le Christ de René Girard, en effet, n'est pas le Christ romantique. Ce n'est pas le Christ humanitaire. Ce n'est pas le Christ promoteur ou prometteur d'utopie sur la terre telle qu'il nous vient du XIXe siècle. Mais le Christ de Saint Jean, qui est allé si loin dans l'amour pour nous sauver, qu'il est en droit de nous menacer de la perdition, avec plus de terreur encore que le Père de l'Ancien Testament. Aussi, René Girard, héritier contemporain de saint Augustin et des théologiens augustiniens de l'oratoire français du XVIIe siècle, qui ont tant médité justement sur l'opposition entre le sacrifice sanglant des anciens ou des religions naturelles et le sacrifice christique, il n'a plus cessé, depuis La violence et le sacré, de nous offrir des clés de lecture appropriées aux grands témoins littéraires des vertigineuses houles contradictoires de la modernité, de Chateaubriand, qui en a vu apparaître en quelque sorte avec épouvante les capacités ou les possibilités, à George Orwell, et de Conrad à Beckett.
Ces applaudissements viennent saluer la remise de l'épée par l'académicien Marc Fumaroli à René Girard, une épée de cour qui date du XVIIIe siècle. Après cet adoubement, René Girard est donc invité à prendre la parole, d'abord pour décrire et expliquer l'histoire de son épée, et par la même occasion, René Girard en a profité pour réexposer très clairement ses thèses. Nous l'écoutons.
Mesdames et messieurs, les éloges successifs que je viens d'entendre montre que Michel Albert a raison. J'ai des amis très généreux. Et Michel Albert lui-même est le plus généreux de tous. En acceptant de présider mon comité de l'épée, il a alourdi son fardeau de secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences morales et politiques. Ses talents administratifs sont bien connus et je les apprécie fort, mais c'est pour une raison tout autre. Et c'est une raison dont il a déjà parlé, et donc je n'aurai pas à le refaire. Ce qui nous unit, c'est le grand texte biblique dont nous sommes entretenus il y a à peu près 25 ans. Il m'avait émerveillé en me révélant le rôle central du jugement de Salomon dans un livre que je venais de publier. C'est autour de ce texte que notre amitié s'est forgée. Et un grand merci à Michel Albert. Un grand merci également à Jean-Pierre Dupuis, le premier non littéraire qui n'a pas reproché à la théorie mimétique ses origines littéraires. Pour lui, l'important n'est pas la provenance des idées, mais leur plus ou moins d'efficacité dans l'explication du réel, que le réel soit un texte ou une action. Très vite, Jean-Pierre a mis la théorie mimétique à l'épreuve avec notre ami commun, Paul Dumouchel, dans les meilleures analyses de l'enfer des choses, un livre extrêmement brillant, qui m'a révélé sur ma propre théorie des prolongements que je n'aurais pas soupçonné sans lui. Et je remercie le professeur Fiumaroli. Il a joué un rôle essentiel dans la cérémonie qui nous rassemble, puisqu'il m'a donné mon épée. Mais c'est un grand honneur pour moi que d'être adoubé, et avec quelle vigueur, par un savant aussi éminent, doublé d'un maître incomparable de notre langue et de notre littérature. En sa présence, le français intermittent que je suis, obligé de recourir à l'anglais pour son enseignement, ne s'exprime guère qu'en tremblant. Si j'ai quand même sollicité M. Fiumaroli, c'est après avoir constaté que la rigueur dont il s'arme contre lui-même lorsqu'il écrit se double d'une indulgence extrême envers les victimes des temps calamiteux que nous vivons. De toutes les raisons que j'avais de faire appel à lui, la plus décisive fut sa méditation subtile et profonde et en même temps très simple sur l'Académie française elle-même et son rôle dans la vie culturelle de ce pays, où il montre que beaucoup de choses dans notre univers, dans la situation même de la littérature, sont différentes à cause de l'Académie. C'est plus encore que ses aimables encouragements, son essai m'a mis l'eau à la bouche. Et je remercie aussi, bien sûr, toute l'Académie française et son secrétaire perpétuel, Mme Carrère-Dancos, pour l'accueil si aimable qu'ils m'ont réservé. Et je remercie enfin tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont facilité mon entrée à l'Académie. Au-delà de ces remerciements, mon seul désir est de me taire, mais la coutume exige de moi quelques observations sur la fameuse épée. Elle date du règne de Louis XVI, comme on l'a dit, et elle me plaît parce que c'est une épée, bien entendu, qui a toujours été une épée de parade, jamais utilisée, donc dans le moindre combat. Dans l'usage que j'en fais, la seule chose remarquable est ma décision de n'y faire inscrire que mon nom et la date de mon élection. J'ai renoncé à tout symbolisme personnel. Et il n'y a aucune intention polémique dans ce renoncement. Je tiens le symbolisme personnel pour parfaitement légitime en général, mais inopportun dans mon cas à cause de la nature de mes recherches. Depuis son origine, l'Académie est résolument moderne, soucieuse de récompenser le mérite individuel. Pour devenir éligible, l'essentiel est de se distinguer dans une activité quelque peu créatrice et au fond peu importe laquelle. Dans l'esprit de cette tradition, les académiciens font souvent graver sur leurs épées un objet, un symbole qui évoque le théâtre de leurs exploits. Dans mon cas, la question paraît résolue par la rumeur publique qui fait de moi, et à juste titre, un spécialiste, heureux ou malheureux, des boucs émissaires. Mais je pense au contraire que s'identifier au bouc émissaire, si inévitable que cela paraisse, c'est une absurdité totale, bien entendu. Ce serait fausser complètement le sens de mon œuvre que de choisir le symbolisme du bouc émissaire. Quand je le dis, on soupçonne en moi un de ces intellectuels qui font beaucoup de chichi pour pas grand-chose, au fond. Qu'est-ce qu'un bouc émissaire ? C'est d'abord la victime du rite célébré pendant Yom Kippour, le grand pardon juif. Et ce rite consistait à expulser dans le désert et finalement à tuer un bouc que le grand prêtre, en posant les mains sur sa tête, chargé de tous les péchés d'Israël, de toutes les transgressions commises dans l'année écoulée. Ce premier sens, c'est le sens savant de bouc émissaire. Et les théologiens ont trop pensé que c'était ce sens qui m'intéressait forcément, puisque si je n'étais pas savant, au moins je voulais l'être. Mais il y a aussi dans l'Occident moderne un autre sens qui est un sens populaire, qualifié de dérivé par les dictionnaires. Et il désigne un individu, comme nous le savons tous, c'est l'usage que nous utilisons, un individu que tout le monde persécute sans raison dans les sociétés ou les groupes troublés. Je donne au sens populaire la priorité sur le sens savant, qui en réalité est le sens dérivé, tout à fait le contraire de ce que dit le dictionnaire. Toutes les communautés archaïques possédaient des rites analogues à celui du bouc émissaire. L'animal n'était pas toujours un bouc, bien entendu. Ne voir dans ces rites qu'une superstition insignifiante, ainsi que l'exige notre ignorance religieuse, à mon avis, aujourd'hui, ne suffit plus. Il existe dans les sociétés archaïques des germes de violence qui risquent de détruire les communautés qui les abritent. Les rites de bouc émissaire sont des efforts pour les évacuer. Et en fait, à mon avis, le sens populaire, le sens que nous utilisons tous, montre que tout le monde, au fond, connaît la théorie que je défends. Mais nous nous défendons, d'une certaine manière, de la connaître, n'est-ce pas ? Nous préférons l'ignorer et revenir au bouc émissaire judaïque. Le danger s'enracine, à mon avis, comme on l'a dit bien des fois, aujourd'hui même, dans le mimétisme de l'espèce humaine qui porte sur tous les comportements, y compris nos désirs. C'est depuis Aristote, au fond, qu'on a cessé de comprendre le mimétique comme dangereux. Parce que, au fond, Aristote a réservé le mimétique pour l'art. Alors que Platon, si on regarde de près Platon, Platon a une peur terrible de l'imitation que le monde moderne ne comprend pas, ne parvient pas à expliquer. En s'exaspérant, les rivalités tendent à glisser des objets désirés au sujet désirant. Et alors, le mimétisme aidant, toute la communauté se mobilise contre un nombre toujours plus résolu d'adversaires, puis finalement contre un seul qui unit toute la communauté contre lui et se fait unanimement lyncher. Autrement dit, le mimétisme dans le monde archaïque est en quelque sorte son propre remède. Il est à la fois le mal et le remède, comme le mot pharmakos, pharmakon, pharmakeia, tous les mots qui signifient pharmacie en grec sont liés à ce terme extraordinaire. Et le mot pharmakos signifie au départ la victime humaine, la victime du sacrifice, le bouc émissaire grec qui est une créature humaine et non pas un simple bouc, comme même dans le judaïsme le plus ancien. Aussi longtemps que le mimétisme porte sur les objets désirés, il divise, disperse, désagrège, décompose les communautés. Une fois qu'elles ne sont plus qu'une masse d'antagonismes indifférenciés, le mimétisme fait boule de neige contre une victime quelconque, aux dépens de laquelle la communauté refait son unité. Perçu d'abord comme seul responsable du désordre, coupable, maléfique, cette critique paraît finalement restaurer le calme et sauver la communauté. La voilà donc divinisée. Le bouc émissaire est certainement l'origine des divinités. Lorsque nous repérons la tendance des communautés troublées à se rassembler contre un ennemi susceptible de les réconcilier, nous parlons donc aujourd'hui même de bouc émissaire une fois de plus, pressentant de toute évidence qu'il existe entre le phénomène spontané et le rite du Lévitique un rapport qui, à mon avis, est un rapport de cause à effet. L'apaisement qu'apporte la violence unanime est essentiellement catharsis, n'est-ce pas, au sens des Grecs, c'est-à-dire purification, essentiellement peur devant la violence trop forte et qui ramène la paix. Et le sacrifice lui-même est la répétition de ce mécanisme. Ce n'est donc pas, je le répète, le rite du Lévitique qui est premier, c'est la polarisation unanime contre une victime faussement accusée. C'est ainsi que les communautés humaines se fondent et se refondent, et au paroxysme de crise d'indifférenciation culturelle. Le double sens de l'expression suggère que lorsque nous le voulons vraiment, nous comprenons que les rites de bouc émissaire sont des efforts pour renouveler des effets apaisants de la violence qui joue un rôle encore dans nos sociétés. Dans la passion de Jésus, le même phénomène exactement se retrouve. Jésus rassemble contre lui le clergé du temple, les administrateurs romains et surtout, bien sûr, la foule de Jérusalem. Tout le monde à la fois. Le Christ lui-même est bouc émissaire, donc, au sens moderne, populaire de l'expression, pas au sens du rite, bien sûr. La vieille anthropologie observait fort correctement, par vieille anthropologie, j'entends 1850-1950, que les mythes et les évangiles racontent le même type d'événement. Et de cette observation exacte, la vieille anthropologie tirait, et tire toujours d'ailleurs, des conclusions inexactes, à savoir l'équivalence du mythique d'une part, du biblique et de l'évangélique de l'autre. On croit que les évangiles sont un mythe de plus. Ce que les anthropologues ne voyaient pas et ne voient toujours pas, c'est que même si le phénomène est identique, le récit qu'en font les évangiles est très différent de tous les mythes. Les mythes s'imaginent que la victime collective est coupable, ils sont toujours d'accord avec les lyncheurs. Ils répètent les mensonges les plus ridicules sans rien critiquer. Le parricide et l'inceste d'Œdipe, par exemple, qui passe aujourd'hui pour vérité scientifique. Donc, nous vivons dans un mythe renforcé. Le biblique et l'évangélique, au contraire, comprennent qu'avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on l'a. Ils rectifient l'erreur des religions mythiques. Ils responsabilisent les hommes en les privant de la béquille sacrificielle. Pour comprendre la différence entre le christianisme et les mythes, il suffit de prendre un exemple moderne. Et la France a le plus merveilleux et terrible exemple moderne qui soit. Ce n'est pas la même chose de tenir Dreyfus pour coupable et de penser qu'il est innocent, n'est-ce pas? Et si vous voulez, le fait qu'un pays comme la France ait une affaire de bouc émissaire qui se termine de la façon dont celle-là est terminée n'est pas forcément une honte pour ce pays. Le plus terrible, c'est de ne pas avoir souvent d'affaires Dreyfus et de ne pas savoir qu'on met à mort ou emprisonne des victimes innocentes. La distinction que je fais entre le mensonge des mythes d'une part, la vérité biblique et chrétienne de l'autre, c'est l'aboutissement de toute ma recherche. Je ne peux pas penser ce que je pense et donc faire mien le symbolisme du bouc émissaire. Au lieu de révéler la nature de mon travail, ce serait l'occulter. Le seul homme qui soit allé jusqu'au bout dans la répudiation et la révélation, comme nous l'avons entendu plusieurs fois, c'est le Christ. Son premier symbole n'est pas le bouc émissaire, mais l'agneau sacrifié. Par conséquent, si vous voulez, l'idée du bouc émissaire est présente là, mais le bouc émissaire a l'air coupable, il est méchant, il sent mauvais, il est très laid, etc. Alors que l'agneau de Dieu, c'est en fait la même signification, mais interprétée correctement. Si le Christ a accepté d'être bouc émissaire, ce n'est pas pour satisfaire les pulsions sacrificielles de son Père, comme nous entendons aujourd'hui, c'est pour rendre visible notre violence et nous aider à y renoncer. L'agneau et la croix sont des symboles auxquels on peut s'identifier, mais une épée, je pense, si anodine soit-elle, n'est pas le support le plus indiqué. Ça a été dans notre histoire encore à demi chrétienne, hein, un symbolisme qui est lié aux armes et aux armées, même chez les moines, n'est-ce pas? Mais à mon avis, aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'agneau et la croix sont des symboles auxquels on peut s'identifier, mais une épée n'est pas la place de les mettre. Voilà pourquoi mon épée d'académicien ne porte aucun symbolisme personnel. Je vous remercie pour votre patience.
C'était l'allocution de René Girard, une allocution qui concluait la séance de remise de l'épée le 8 décembre 2005 à la Sorbonne. Une semaine plus tard, le 15 décembre, René Girard était reçu à l'Institut de France sous la coupole. L'académicien fraîchement élu a bien sûr évoqué la vie et l'œuvre de son prédécesseur à l'Académie française au 37e fauteuil. Il s'agit du père Ambroise-Marie Carré, prêtre dominicain, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été élu en 1975 à l'Académie. Et après cette évocation, c'est au tour du philosophe Michel Serre de prendre la parole pour évoquer la pensée de René Girard et sa modernité.
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. D'où parviennent jusqu'ici ces aboiements? Reconnaissons-nous de même, dans le récit de Théramène, les chevaux emportés qui traînent le cadavre d'Hippolyte sur le sable de la plage écartelé? Qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Merci, monsieur, de nous avoir fait entendre en ces abois, en ces hennissements, en ces hurlements d'animaux enragés, nos propres vociférations. D'avoir dévoilé, en cette meute sanglante, en cet attelage emballé, en ce nœud de vipère, en ces bêtes acharnées, la violence abominable de nos sociétés. D'avoir révélé enfin en ces corps déchiquetés les victimes innocentes des lynchages que nous perpétrons. Tiré de Racine, ce bestiaire hominien eût pu s'échapper furieux de l'Antiquité grecque, où des femmes tracent d'épaisses torsées, Orphée, de la Renaissance anglaise ou de notre XVIIe siècle classique, où chaque tragédie porte en elle, imagée ou réelle, une trace immanquable de cette mise à mort. Les imprécations de Camille chez Corneille réussissent contre Rome tous les peuples issus du fond de l'univers, et dans Shakespeare, les sénateurs assemblés plantent leurs couteaux croisés dans le thorax de César. L'origine de la tragédie, que, sans la trouver, chercha Nietzsche, vous l'avez découverte. Elle gisait toute offerte en la racine hellénique du terme lui-même. Tragos signifie en effet le bouc, ce bouc émissaire que des foules prêtes à la boucherie expulsent en le chargeant des péchés du monde, les leurs propres, et dont l'agneau de Dieu inverse l'image. Merci d'avoir porté la lumière dans la boîte noire que nous cachons parmi nous. Nous, nous patriciens au Marais de la Chèvre, assemblés en cercle concentrique autour du roi de Rome, nous parmi les ténèbres d'un orage parcouru d'éclairs, nous découpant Romulus en morceaux et la clarté revenue fuyant honteux, chacun dissimulant dans le pli de sa toge un membre du chef dépecé. Nous, soldats romains, pressés autour de Tarpeia, jetant nos bracelets, nos boucliers sur le corps virginal de la vestale chaste. Nous, lapidateurs de la femme adultère, nous, persécuteurs, lançant pierre après pierre sur le diacre Étienne dont l'agonie voit les cieux ouverts. Nous, bannissant ou élisant tel candidat, en écrivant son nom sur des tessons de terre cuite, souvenir oublié de ces pierres de lapidation. Nous, désignant un chef par nos suffrages, sans nous remémorer jamais que ce mot fractal signifie encore les mêmes fragments jetés sur l'élu. De ces pierres assassines, nous bâtissons nos villes, nos maisons, nos monuments. Nous, désignant roi ou victime, parmi nos fureurs, temporairement canalisées par ce suffrage même. Nous, vos confrères, qui, de nos suffrages, vous avons élus. Nous, sagement assis autour de vous, debout, discourant de notre père carré mort. Grâce à vous, je vois pour la première fois le sens archaïquement sauvage de cette cérémonie, les cercles concentriques des sièges fixés au sol, immobilisés, séparés. J'entends le silence du public, apaisé de fascination, vous écoutant, vous, élus, debout. Je découvre aussi pour la première fois cette chapelle ronde, autour du tombeau de Mazarin, tous deux faits des pierres d'une lapidation gelée, reproduisant comme un modèle réduit les pyramides d'Égypte, résultat, elles aussi, elles sans doute parmi les premières, d'une lapidation longue, celle du corps de Pharaon, accablé, couché sous ce monceau. Les institutions élèvent-elles nécropoles et métropoles à partir de ce supplice primitif ? Notre coupole se forme-t-elle encore selon ce rite oublié ? Et que signifie le sujet que nous appelons vous ou moi ? Subiectus, celui qui couchait, jeté dessous, jeté sous les pierres, meurt sous les boucliers, sous les suffrages, sous les acclamations. Et quel abominable glu colle les collectifs en ce sujet pluriel que nous nommons « nous ». Ce ciment se compose de la somme de nos haines, de nos rivalités, de nos ressentiments. Vous, sous la boîte noire des pierres, voici le bouc émissaire. Nous, dans la boîte noire de la nuit, voilà, sans que nous le sachions, les anciens persécuteurs. Mais d'où provient cette violence ? Observez nos habits verts. Pourquoi un groupe parade-t-il ainsi en uniforme ? Pourquoi femmes et hommes suivent-ils une mode vestimentaire, intellectuelle, parlière ? Pourquoi ne désirons-nous passer pour d'exceptionnelles singularités qu'à la condition de faire comme tout le monde ? pourquoi ladite correction politique exerce-t-elle tant de ravages sur notre liberté de penser ? Pourquoi faut-il tant de courage pour dire ce qui ne se dit pas, penser ce qui ne se pense pas, faire ce qui ne se fait pas ? Pourquoi l'obéissance volontaire fonde-t-elle les pouvoirs ? Pourquoi nous prosternons-nous tous devant les grandeurs d'établissement dont la cérémonie d'aujourd'hui donne un si parfait exemple ? Vous avez découvert aussi, monsieur, cette autre et première glu dont l'adhérence fait une bonne part du lien social et personnel, le mime, dont les gestes, les conduites, les paroles, les pensées nous rapprochent de nos cousins les singes, les chimpanzés, les bonobos, sur lesquels Aristoteles dixit, nous l'emportons en imitation. Combien de fois, observant dans un ministère une réception officielle ou dans un hôpital la visite d'un professeur de médecine au chevet d'un malade, n'ai-je pas vu de mes yeux vus de grands anthropoïdes se livrant au jeu dérisoire de les hiérarchies où le mâle dominant parade face au dominé ou à ses femelles soumises. L'imitation produit la dominance plus ou moins féroce que nous exerçons ou subissons. Anthropologique et tragique, le modèle que vous proposez à notre méditation en illuminant notre expérience part du mime et du désir qui en découle. Tel aime la maîtresse de son ami ou l'ami de sa maîtresse, tel autre jalouse la place de son proche voisin, et quel enfant ne s'écrie « moi aussi » dès que frère ou sœur reçoivent un cadeau, et quel adulte peut se défendre d'un même réflexe ? L'état d'ego crée une rivalité qui, en retour, nous transforme en jumeaux, réattisant à la fois la haine et l'attirance. Le paysage entier des sentiments violents, des émotions de base, divers et colorés en apparence, jaillit de cette gémellité uniforme et pourtant productive. Nous désirons le désir nous fait même, le même fait le désir, qui se reproduit monotone sur la double carte de tendre et de haineux que vous dessinez avec le pinceau du mime. Mieux encore, ce mimétisme jaillit de notre corps, du système nerveux comprenant ces neurones miroirs, découverts récemment par des cognitivistes italiens, et dont nous savons aujourd'hui qu'ils s'excitent aussi bien lorsque nous faisons un geste qu'au moment où nous voyons un autre le faire, comme si la représentation équivalait à l'acte. Ainsi, le mime devient-il l'un des formats universels de nos conduites. Nous imitons, nous reproduisons, nous répétons. La replication propage et diffuse le désir individuel et les cultures collectives, comme les gènes de l'ADN reproduisent et disséminent la vie. Étrange dynamisme de l'identique dont l'automatisme redondant, repliqué indéfiniment, va se répétant. Vous avez mis, monsieur, la main sur l'un des grands secrets de la culture humaine, spécialement de celle que nous connaissons aujourd'hui, dont les codes envahissent le monde exponentiellement plus vite que celui de la vie, 3 milliards 800 millions d'années pour l'une, quelques millénaires à peine pour l'autre, parce que ces grandes révolutions, taille de la pierre au néolithique, écriture dans l'Antiquité, imprimerie à la Renaissance, industrie de chaînes et de séries depuis quelques siècles, nouvelles technologies plus récemment, inventèrent toutes, sans aucune exception, des replicateurs, codes ou opérations de codage dont la surabondance envahissante caractérise notre société de communication et de publicité. Ces replicateurs, dont la similitude excite et reproduit le mimétisme de nos désirs, semblent imiter à leur tour le processus de reproduction de l'ADN vivant. Les objets qui nous entourent désormais, voitures, avions, appareils ménagers, habits, affiches, livres et ordinateurs, tous proposés à nos désirs, Comment les nommer sinon les productions d'un modèle à peu de variations près ? Que dire aussi de ce que l'inculture de nos élites appelle management pour les entreprises privées ? Que dire de l'administration pour les services publics, sinon que l'effroyable lourdeur de leur organisation a pour but de rendre homogène et reproductible toute activité humaine et de donner ainsi le pouvoir à ceux qui n'ont aucune pratique singulière. Et que dire des marques, partout propagées, dont nous connaissons aujourd'hui l'origine, les traces de pas que laissaient en marchant, imprimées sur le sable des plages, les putains d'Alexandrie, révélant ainsi leur nom et la direction de leur lit. Le long de leur marche dupliquée, ne revons-nous pas, monsieur, au désir ? Quel président d'une grande marque aujourd'hui partout affichée se sait, et s'il ne le sait pas, je jouis ce soir de le lui apprendre, se sait, dis-je, enfant de ces putains d'Alexandrie ? Nous avons créé un environnement où le succès lui-même, où la création elle-même, dépendent désormais de la reproduction plus que de l'inimitable. Le danger majeur que courent nos enfants, le voici. Les fils de putains à qui je viens de rappeler leur digne lignée les plongent dans un univers de codes repliqués, nous les écrasons de redondance. La crise de l'éducation, la voici. Fondée naturellement sur l'imitation, l'apprentissage enseigne à devenir des singularités inimitables. Tonitruant, les médias, la publicité, le commerce et les jeux répètent au contraire « Imitez-moi, devenez les véhicules automatiques de la répétition de nos marques pour que votre corps et vos gestes répétés multiplient en la répétant nos succès commerciaux. » Timide en face et quasi sans voix, face à ces potentats, l'éducation souffle « N'imitez personne que vous-même, devenez votre liberté. » Devenue pédagogique, notre société a donc rendu l'éducation contradictoire. La crise de la création, la voici enfin, dans un univers de replicasteurs, de modes et de codes reproducteurs, de clones bientôt, l'œuvre inimitable restera cachée jusqu'à la fondation de nouveaux mondes. Ainsi, monsieur, nous avez-vous révélé comment le désir personnel et la culture humaine amplifient l'un des secrets de la vie, de la naissance, de la nature. Aveuglés par la monotonie du même, nous voyons très mal la répétition. Comprenons-nous, par exemple, comment les techniques externalisées du corps reproduisent d'abord les fonctions simples de nos organes, imitent ensuite nos systèmes organiques, miment ensuite certains tissus, miment enfin l'imitation même de l'ADN. Voici un autre mimétisme caché. Appareillé, externalisé du corps, les techniques finissent par entrer dans son secret de se reproduire pareillement. Partie du corps, les appareils bien nommés y reviennent aujourd'hui. Elles se ramènent à des biotechnologies, dont l'histoire raconte comment les objets que nous fabriquons explorent les unes après les autres les performances de la vie. J'ai appelé cela jadis l'exo-darwinisme des techniques. Grâce à vous, monsieur, je comprends ce soir qu'il continue et qu'il imite culturellement le darwinisme naturel. Je voudrais vous nommer désormais le nouveau Darwin des sciences humaines. Je voudrais, par deux aveux, compléter le tableau du mimétisme tel que vous le décrivez. Le premier concerne nos psychologies. Si, d'exercice ou de nécessité, nous cherchions le plus loyalement du monde ce que nous désirons vraiment, ou ici ou maintenant, ou globalement pour notre vie entière, n'entrerions-nous point pour longtemps dans une autre boîte noire intime où nous nous égarerions sans trouver dans ce fond sombre de nous-mêmes le plus petit élément de réponse à cette exigence immédiate ou large de plaisir ou de bonheur. Face à l'inquiétude induite par un tel égarement, nous nous précipitons vers l'imitation parce que nous ne pouvons pas ne pas combler au plus vite un vide aussi angoissant. Aussi difficile que se présente d'autre part la morale la plus austère, ne constitue-t-elle pas elle aussi un substitut facile à la même absence ? Évidence plus que paradoxe, la route malaisée de la morale, comme le chemin aisé du mime, semble des voies d'accès plus accessibles que la quête inaccessible de l'authentique plaisir. Puisque je ne sais pas ce que je veux, autant désirer ce que les autres paraissent vouloir ou ce que des normes féroces m'imposent. Deuxième aveu, plus logique à la fois et plus personnel. Il ne se présente pas de cas, dit Karl Popper quelque part, où certaines théories, le marxisme ou la psychanalyse par exemple, se trouvent en défaut. Voilà des théories qui ont toujours raison. Mauvais signe, car exact ou rigoureux, le savoir se reconnaît à ce qu'il connaît toujours des lieux où il défaille. Il n'y a donc de science que falsifiable. Or, ça et là, nous entendons dire que votre modèle, trop universel, tombe sous ce couperet. Il n'y aurait, dit-on, aucune exception à votre théorie du double et de la rivalité mimétique. On ne pourrait que la vérifier, or je le répète, pour qu'elle puisse entrer en science, il faudrait la falsifier. Aussitôt, je m'y emploie. Voici déjà, monsieur, quelque 30 ans que, me prétendant votre ami, je reçois de vous des marques d'amicale réciprocité. En public, ce soir, je puis jurer les dieux devant les autels du monde et sans aucun risque de parjure que je n'ai jamais ressenti ombre de jalousie ni de ressentiment à votre égard, quelque admiration que je vous porte. Veuillez donc me considérer comme un monstre, comme un double sans rivalité, donc falsificateur de votre modèle. De la sorte, nous pourrons enfin l'admettre dans l'exactitude rigoureuse du savoir. Quoi de plus réjouissant, vous en conviendrez, qu'un ami vrai joue assez aux faux amis pour pouvoir démontrer en la falsifiant la vérité décrite par son ami. Et puisqu'il s'agit là de vous et de moi, pourquoi ne pas avouer, en entrant plus avant dans les confidences, que cependant, je vous jalouse sur un point. Vous naquîtes à Avignon, expression qui m'induit, et voilà l'exception, à une féroce rivalité mimétique, car issu, moi aussi, moi toujours votre double, d'une ville dont le nom commence par un A, je ne bénéficie pas, comme vous, et certains de nos amis ici présents, nés par chance à Haïti, de la préposition « en » dont l'euphonie évite à vos compatriotes l'hiatus dont l'horreur haïssable hante qui habita à Agen. Je me laisse brûler là par les feux de l'envie. Quasi jumeaux, nous naquîmes donc sous la même latitude, mais seuls les Parisiens, gens de peu d'oreilles, croient que nous parlons avec le même accent une même langue d'oc. Alors qu'ils croient la France coupée seulement en nord et sud, ils ne la voient pas comme nous séparés aussi en est et ouest. Nous, Celtes, et même Celtibères, et vous, Gaulois latinisés d'Arles ou de Milan, promis au Saint-Empire romain germanique. Nous, Atlantiques, versés vers un océan ouvert, vous, continentaux d'une mer intérieure. Nous, de la barre pyrénéenne, vous, de l'arc alpin. Nous, aquitains, gallois ou bretons, humides et doux. Vous, méditerranéens venteux, piquants et secs. Nous, basques ou gascons, cousins des écossais, irlandais, portugais. Vous, provençaux, voisins rhodaniens du Rhin et du Pô. Vous, Zola, Daudet, Giono, nous, Montaigne, vous, Cézanne, nous, Forêt. Si l'espace nous sépare, il nous a unis aussi. À la fin de la dernière guerre, vous avez émigré, terrifié comme je le fus, des folies criminelles de nations européennes. Pour mieux la penser sans doute, vous mettiez instinctivement de la distance entre votre corps et cette mortelle violence. Et de même que je parle parfois, avec une certaine émotion, de la France rurale d'avant la coupure du conflit, vous parlez souvent avec la même nostalgie des États-Unis que vous connûtes alors, comme le nôtre, à la culture rurale et chrétienne, avant que lui-même ne s'américanise. En cherchant la paix, vous deveniez parmi les tout premiers ce que nous devons tous devenir aujourd'hui, métis de culture et citoyens du monde. Je ne vous rejoignis que 20 ans après. Vous souvenez-vous des paquebots, de ces traversées bénies dont la durée ne coûtait au corps aucun décalage horaire? En le perdant, l'on gagnait du temps, alors que nous en perdons maintenant en croyant le gagner, entassé dans des aéronefs. De ce moment, j'ai en partie partagé votre errance de campus en campus et d'est en ouest. Vous souvenez-vous des blizzards de Buffalo, des hivers où nous cassions la glace sur la route, où les congères accumulées sur la neige des grands lacs nous interdisaient parfois de sortir de nos maisons? Vous souvenez-vous des automnes lumineux de Baltimore, d'été indien où les rouges du feuillage renvoient au ciel une clarté que son azur ne connaît pas? Vous souvenez-vous des chaleurs humides du Texas, des forêts de Caroline? Avec quelle tristesse la vieillesse venue, devrais-je bientôt me passer de vous retrouver comme depuis plus de 20 ans sur les bords du Pacifique, entre la baie de France, San Francisco et l'océan? De même que votre pensée connecte plusieurs disciplines, votre vie traversa lentement cet immense continent. Vous en connaissez l'espace, vous en savez mieux que personne les mœurs, les vertus, les excès, la grandeur, les émotions, les religions, la politique, la culture. Jour après jour, j'ai appris les États-Unis en vous écoutant, et je souhaite souvent qu'à la suite d'Alexis de Tocqueville, dont j'occupe le fauteuil, vous écriviez demain une suite contemporaine et magnifique, selon ce que j'entends dit, de la démocratie en Amérique. Les souvenirs de votre vie nous doivent ce dernier ouvrage-là. Vous avez traversé la mer pour vous évader de la violence. Vous, principalement, et moi, votre double dans l'ombre, nous n'en parlons pas pour rien, en effet. Dès 1936, nous avions tous deux autour de 10 ans. Je n'en perdrai jamais la souvenance. Nous autres enfants rares, issus des rescapés de la Première Guerre mondiale, recevions déjà les réfugiés d'Espagne rouges et blancs, jumeaux, échappés des atrocités d'une guerre civile qui annonçait la reprise des atrocités subies par nos parents. Souvenez-vous alors de la suite en cataracte. Souvenez-vous des réfugiés du Nord, poussés par la Blitzkrieg de 1939. Souvenez-vous des bombardements, des camps de la mort et de l'Holocauste, des luttes civiles entre résistants et miliciens, de la libération joyeuse mais abominable de ressentiments sanglants. Souvenez-vous d'Hiroshima et de Nagasaki, catastrophes pour la raison et le monde. Ainsi formée par ces atrocités, notre génération dut en plus porter les armes dans les guerres coloniales comme en Algérie. Nous partageâmes donc une enfance de guerre, une adolescence de guerre, une jeunesse de guerre, suivant une paternité de guerre. Les émotions profondes propres à notre génération nous donnèrent un corps de violence et de mort. Vos pages émanent de vos os, vos idées de votre sang. Chez vous, la théorie jaillit de la chair. Voilà pourquoi, monsieur, vous et moi, mêlés à notre corps de guerre, avons reçu dès cet âge une âme de paix. Un jour, les historiens viendront vous demander d'expliquer l'inexplicable, cette formidable vague qui submergea notre Occident pendant le XXe siècle, dont la violence sacrifia non seulement des millions de jeunes gens pendant la Première Guerre mondiale, puis des dizaines de millions autour de la Seconde, selon la seule définition de la guerre qui tienne et selon laquelle des vieillards sanguinaires de part et d'autre d'une frontière se mettent d'accord pour que les fils des uns veuillent bien mettre à mort les fils des autres, au cours d'un sacrifice humain collectif que règlent comme les grands prêtres d'un culte infernal, ces pères enragés que l'histoire nomme chef d'État, et qui, pour couronner ces abominations d'un pic d'atrocité, sacrifia, dis-je, non seulement ses enfants, mais par un retournement sans exemple, sacrifia aussi ses ancêtres, les enfants de nos ancêtres les plus saints. Je veux dire le peuple religieux par excellence. Le peuple à qui l'Occident doit, sous la figure d'Abraham, la promesse de cesser le sacrifice humain. En l'atroce fumée sortie des camps de la mort et qui nous étouffa tous deux en même temps que l'atmosphère occidentale, vous nous avez appris à reconnaître celle qui sortait des sacrifices humains perpétrés par la sauvagerie polythéiste de l'Antiquité, celle tout justement dont le message juif puis chrétien tenta désespérément de nous délivrer. Ces abominations dépassent largement les capacités de l'explication historique. Pour tenter de comprendre cet incompréhensible-là, il faut une anthropologie tragique à la dimension de la vôtre. Nous comprendrons un jour que ce siècle a élargi à une échelle inhumaine et mondiale votre modèle sociétaire et individuel. Et de rechef, d'où vient cette violence ? Du mime, disiez-vous. Il pleut du même dans les champs du désir, de l'argent, de la puissance et de la gloire, peu d'amour. Il pleut du mime, comme il pleuvait jadis dans le vide du même, atomes, paroles et lettres pour la fondation du monde. Or, quand tous désirent le même, s'allume la guerre de tous contre tous. Nous n'avons encore rien à raconter que cette jalousie haineuse du même qui oppose doubles et jumeaux en frères ennemis. Quasi divinement performative, l'envie produit devant elle indéfiniment ses propres images à sa ressemblance. Les trois Horaces ressemblent aux Curias triples, les Montaigu imitent les Capulet, Saint-Georges et Saint-Michel miment le dragon, l'axe du bien agit symétriquement selon une image à peine inversée de l'axe du mal. Ainsi généralisé, couvrant tout l'espace par l'imitation, le conflit risque de supprimer les guerriers jusqu'au dernier. Épouvantés de cette possible éradication de l'espèce par elle-même, tous les belligérants se retournent parmi cette crise contre un seul. Des humains en foule tuent l'humain unique en un geste d'autant plus répété que les meurtriers ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'ici, nous n'avions rien à raconter parce que le récit redondant répète toujours la même ritournelle, ce cauchemar monotone de mimes et de meurtres que communément l'on appelle l'histoire. Il n'y a rien à raconter parce que, aveugles ou hypocrites, nous cachions sous les mille circonstances multicolores de l'histoire, le verbe historier signifie ce bariolage enjolivé d'un décor de racontard, cette uniformité d'un message sans aucune information. Du kaléidoscope de ses fureurs, de ses oripeaux d'arlequin, l'histoire couvre son vide d'informations issues de la monotonie repliquée de la violence. Alors seulement commence le récit. Celui qui raconte à la fois le livre des juges et la tragédie grecque et qu'à mon tour je puis relater. Si je gagne cette guerre, supplie Jephté, général des armées, j'offrirai au Seigneur en holocauste la première personne que je rencontrerai. Si les vents se lèvent à nouveau pour virer mes voiles vers Troie, pris Agamemnon, amiral de la flotte, je sacrifierai sur les autels de Neptune la première personne qui viendra vers moi. Une bonne brise enfle la voilure des vaisseaux de guerre grecs et ce père, roi des rois, voit venir vers soi sa propre fille Iphigénie. L'armée juive écrase les fils d'Ammon et, dansant et jouant du tambourin pour fêter la victoire, sort de sa maison à Mispa, la fille de Jephthé soi-même, courant joyeuse vers son père triomphant, mais déchirant ses vêtements. Dans les plaines mornes des batailles et chamailles des mêmes contre les mêmes, tous deux désirant le même, sans nouvelles donc et sans information, montent alors et jusqu'au ciel le plus improbable des messages, le comble de l'horreur et de la cruauté, les plus nobles des pères deviennent les pires. La vie, le temps, les circonstances et l'histoire tirent au hasard ses premières venues. Le dieu Baal et le Minotaure terré au labyrinthe de Crète dévorent les premiers-nés des notables de Carthage ou d'Athènes, les fils, les filles, toujours les enfants. La victime de la violence paraît se tirer à la courte paille, mais toujours le sort tombe sur le plus jeune, sur le mousse, voilant ainsi le secret que j'avais deviné de la guerre, le meurtre des fils, le meurtre de la descendance, dont l'organisation par ses pères ignobles se cache sous l'aléa. En cette deuxième monotonie du sacrifice humain, désormais sans cesse repris, la première vraie nouvelle vint d'Abraham, notre ancêtre, qui, appelé par l'ange du Seigneur, arrêta son poing au moment où il allait égorger Isaac, son fils. Cela montre mieux encore qu'Agamemnon et Jephthé avaient bien sacrifié leur fille de gaieté de cœur et caché cette abomination sous le prétexte du hasard et de la première venue, comme d'autres ailleurs l'avaient dissimulé dans la nuit à l'occasion d'un orage. La pitié, la piété monothéiste consiste nouvellement en l'arrêt du sacrifice humain remplacé par la vicariance d'une victime animale. L'éclair de la violence bifurque et miséricordieusement épargne l'enfant. La deuxième vint de la passion de Jésus-Christ. À l'agonie, celui-ci dit « Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Ici, la bonne nouvelle porte sur l'innocence de la victime, l'horreur du sacrifice et le dessillement des bourreaux aveugles. La troisième bonne nouvelle vint de vous, monsieur, qui dévoilez cette vérité à nos yeux comme aux leurs cachés. Moins connue à ce jour, quoique assourdissante, la quatrième exigerait de plus longs développements. Par l'imprimé, la parole et les images, les médias d'aujourd'hui reprennent le sacrifice humain, le représentent et le multiplient avec une frénésie telle que ces répétitions recouvrent notre civilisation d'une barbarie mélancolique et lui font subir une immense régression en termes d'hominisation. Les technologies les plus avancées font ainsi reculer nos cultures aux ères archaïques du polythéisme sacrificiel. Vous dites aussi quelque part, monsieur, que le dévoilement du mécanisme victimaire en a usé le remède. Certes, nous ne disposons plus de rituels pour tuer des hommes, sauf sur nos écrans tous les jours, sauf sur nos routes souvent, sauf dans nos stades et nos rings de boxe quelquefois. Mais j'y pense, cette loi souveraine qui nous fit passer du meurtre à la boucherie, cette loi, dis-je, qui dérive notre fureur de la victime humaine à la bête, notre violence ne l'a-t-elle pas dérivée aujourd'hui sur ces objets dont je viens de dire qu'ils sortent justement de nos corps par un processus copié de votre mimétisme ? Voici quelques semaines, nous connûmes en France, pour la seconde fois, des révoltes sans mort, des violences déchaînées sans victimes humaines. Avons-nous vu, nous, vieillards, témoins des horreurs de la guerre, et à qui l'histoire enseigna contre le message d'Abraham et de Jésus, le bûcher de Jeanne d'Arc et celui de Giordano Bruno, avons-nous vu les révoltés en question ne brûler par mimétisme que des automobiles ? Avons-nous observé la police postée devant eux épargner aussi les vies humaines ? Je vois ici, monsieur, une suite immanquable de votre anthropologie, où la violence collective passa jadis de l'homme à l'animal et maintenant de la bête absente de nos villes à des objets techniques. Parmi ces révoltes fument des chevaux vapeurs. Comme en revenant, le sacrificiel ne cesse donc pas de nous hanter. Pourquoi ? Enfant, l'on nous enseigna à l'école que Zeus, Artémis et Apollon peuplaient le panthéon des religions antiques. Fausse, ces appellations font oublier qu'aux yeux des anciens existaient seulement les divinités spécifiques des villes. Couverte de saints, l'Artémis d'Éphèse se distinguait de l'Amazone chasseresse d'une autre cité. Apollon régnait à Delphes et Athéna sur la communauté exclusive des Athéniens. Ces noms propres unifiaient un collectif local. Ces ancêtres croyaient-ils aux déités ainsi nommées ? Non. Aucun verbe dans leur langue ne désigna un acte de foi. Ils y croyaient certes, mais seulement au sens où certains, moi compris, participons parfois avec chaleur aux exploits de notre équipe régionale ou nationale de rugby, au sens où un autre concitoyen confesserait sa confiance en la République. Cette créance transit l'appartenance. À l'ombre du Parthénon, Athéna symbolise un territoire éponyme, comme une équipe de football ou autre parti désignerait aujourd'hui d'autres niches. Il arrive d'ailleurs que pour l'appartenance, on brandisse un étendard sanglant devant de féroces soldats, dont des paroles ignoblement racistes disent encore le sang impur. De ces appartenances découle tout le mal du monde. Des conflits perpétuels entre les villes et les empires éradiquèrent la Grèce, l'Égypte et Rome, et en trois guerres successives, nos nationalismes d'Occident faillirent s'en suicider. Par bonheur, notre génération, et j'en suis fier, inventa une Europe qui, pour la première fois de l'histoire occidentale, vit en paix depuis 60 ans. Votre polythéisme meurtrier du sacré, je le généralise donc volontiers en religion belliqueuse et militante de l'appartenance. La foi les délaisse usés. Les polythéismes et les mythes associés collent les collectifs avec une efficacité sanglante. Mais cette solution que vous dites toujours temporaire et donc à recommencer sans cesse s'use pendant que ces sociétés en périssent. L'Antiquité mourut de ses religions. Quand le judéo-christianisme parut, il enracina peu à peu dans la foi, dans les individus. Avant saint Augustin et Descartes, saint Paul invente l'ego personnel. Saint Paul invente l'ego universel. Il y a donc deux sortes de religions. La première, les anthropologues et les sociologues épuisent le sens de celles qui fondent l'appartenance, où règnent la violence et le sacré. Inversement, pour celle de la personne, les expressions sociologie ou politique des religions sentent l'oxymore. La distinction monothéisme-polythéisme ne se réduit point à la croyance en un ou plusieurs dieux, mais désigne une séparation plus radicale entre croyance et foi, entre social et individuel. Quand l'Évangile recommande la dissociation entre Dieu et César, il distingue la personne de son collectif, l'empereur maîtrise le « nous », Dieu s'adresse au « moi », source ponctuelle sans espace de ma foi en lui. Je dois l'impôt à la société dominée par le pouvoir impérial, je sauve mon âme. Pour n'avoir aucune place dans le monde, la nouvelle religion fonde sa sainteté dans l'intime de l'intérieur. Cependant, elle doit fonder aussi une église qui s'enferme d'abord dans les catacombes à côté des tombes, non pas seulement pour échapper aux persécutions de Rome, mais pour se cacher d'une société violente usée jusqu'à la corde comme la nôtre, pour tenter de constituer un collectif nouveau, laissant l'appartenance sacrée pour la communion des saints. Je vois les premiers chrétiens, dames patriciennes, esclaves, étrangers de Palestine ou d'Ionie, sans distinction de sexe, de classe ni de langue, ne cessant de focaliser leur regard et leur attention fervente sur l'image de la victime innocente, en partageant une hostie symbolique plutôt que les membres épars d'un lynchage. Si nous comprenions ce geste, ne changerions-nous pas de société ? Que l'Église ait réussi ou non un tel pari, l'histoire trop brève peut-elle en juger ? Je sais seulement que toute société, celle-là autant que les autres, se trouve, comme vous le dites aussitôt que née, empêtrée dans la nécessité de gérer sa violence inévitable. Aucun collectif n'échappe à cette loi d'airain, pas même celui des théologiens, des philosophes, scientifiques, historiens, même académiciens, aussi persécuteurs que n'importe quel groupe en fusion. La puissance sociétaire de la violence et du sacré l'emporte sur les vertus douces des individus et dévaste vite la communion des saints. Peut-elle échapper au mimétisme, à la rivalité, aux mécaniques aveugles du bouc émissaire ? Ceux qui prétendent se battre pour Dieu tombent alors et n'assassinent que pour un fantôme revenant de César. Au milieu des guerres de religion, Montaigne notait qu'il ne se trouvait pas un furieux humile qui avoua tuer pour sa foi. La violence revient toujours parmi nous et aussi bien parmi le divin. Nous vivons aujourd'hui encore le retour de ces revenants. Considérer la religion comme un fait de société, comme un fait d'histoire, loin de caractériser une approche scientifique, fait au contraire partie de la régression contemporaine vers les religions sacrificielles de l'Antiquité. Le savoir-là s'adonne au même aveuglement que les médias. Dans les deux cas, Dieu mort, nos conduites reviennent aux religions archaïques. Depuis que le monothéisme se tait, nous errons, redevenus polythéistes, parmi les revenants du sacrifice humain. Pourquoi tous les jours, à midi et le soir, la télévision représente-t-elle avec tant de complaisance cadavres, guerres et attentats ? Parce que le public se coagule par la vue du sang versé. Ras pour les autres hommes, nous autres hommes béons devant la violence et ses revenants. Le polythéisme sacrificiel colle si bien le collectif que je l'appellerai volontiers le naturel du culturel. Les prophètes et écrivains d'Israël connaissaient bien ce retour fatal du sacrifice dans une société qui n'arrive jamais à vivre la difficulté d'un monothéisme qui l'en priverait. Comme au temps biblique, cela nous arrive aujourd'hui. Un prophète seul peut le rappeler. Voilà pourquoi je vous écoute. Il y a deux sortes de religions, en effet. Presque naturellement, les cultures engendrent celles du sacré, qui se distinguent de celles que ces collectifs mêmes peuvent à même tolérer, parce que saintes, elles interdisent le meurtre. Rare et difficile à vivre par son exception insupportable, le monothéisme porte la critique la plus dévastatrice des polythéismes courants, sans cesse revenant dans leur fatalité. Le saint critique le sacré comme le monothéisme critique l'idolâtrie. Vous décollez la foi des crimes de l'histoire, y compris de ceux perpétrés au nom du divin, non pas pour justifier la religion, mais pour rétablir la vérité dont voici l'unique critère, ne jamais verser le sang. Méditant ainsi, vous portez la raison en des matières de violence qui semblaient l'exclure. Elle n'appartient de droit à personne, à aucun savoir, à nulle institution, mais se conquiert seulement d'exercice. Il paraît certes aisé de la pratiquer dans les sciences exactes. Or, monsieur, vous l'introduisez dans des domaines autrement difficiles. On entend souvent aujourd'hui réduire la religion à un fidéisme fade et irrationnel en dehors de tout rationalisme. Comme si, venu d'un cœur au doux sâtre écœurant, la foi tournait le dos à la raison. Vous renouez au contraire avec la plus haute de nos traditions, où l'une cherche l'autre en les réconciliant. Vous le faites de plus en suivant un chemin d'une longueur peu commune. je mesure l'importance de votre hypothèse avec l'extension de son rayonnement. Elle a renouvelé en effet la critique littéraire. J'ai tenté de faire entendre en commençant que nous lisons désormais autrement la tragédie grecque, renaissante ou classique. Mais nous quittons un exercice qui, fermé sur soi, resterait vain pour mieux penser grâce à vous les tragédies que nous vivons aujourd'hui. Elle a renouvelé l'histoire. Nous interprétons désormais autrement la fondation de Rome, les conflits, les mouvements de foule, les révolutions. Mais nous quittons un exercice qui, fermé sur soi, resterait vain pour mieux comprendre grâce à vous l'horreur de notre XXe siècle. Elle a renouvelé de même la psychologie. Si le triangle à la française rafraîchit la lecture des romans du XVIIIe ou du XIXe siècle et leurs mensonges romantiques, nous quittons aussitôt un exercice qui, fermé sur soi, resterait vain, car votre mimétisme permet de mieux interpréter le narcissisme, les relations amoureuses, l'homosexualité, de relire même la psychanalyse. De mieux comprendre aussi les mécanismes du désir et de la concurrence qui modèlent notre économie. Nous entrons plus avant, grâce à vous, dans l'anthropologie, dans l'histoire des religions et la théologie, en redonnant son importance au sacrifice, en resituant les religions juives et chrétiennes par rapport aux divers polythéismes. Mais nous quittons aussitôt un exercice qui, fermé sur soi, resterait vain pour mieux saisir enfin les monotones nouveautés de l'âge contemporain. Pour comprendre notre temps, nous disposons enfin non seulement du nouveau Darwin de la culture, mais aussi d'un docteur de l'Église. Votre pensée, décidément, me ramène toujours au temps présent que j'ai hâte de rejoindre. Je disais tantôt que l'espace nous sépare et nous unit, mais le temps aussi nous rassemble. Nous naquîmes tous deux à la pensée par celle d'une femme dont je veux évoquer la vie et le visage par reconnaissante piété. Sensiblement au même âge, nous lûmes Simone Veil. Son génie et les atrocités de la guerre firent de cette femme inspirée, juive à la fois et chrétienne, la dernière des grandes mystiques, l'ultime philosophe pour qui l'héroïsme et la spiritualité avaient autant, sinon plus, de densité que la vie elle-même. Je me souviens de réunions en Californie entre Allemands et Français, ennemis en des temps effacés de nos mémoires, devenus amis depuis, qui avouaient de concert avoir commencé à méditer sous l'égide douce de cette héroïne qui voit son existence à la sainteté. De fait, pourrions-nous vivre, écrire et penser seuls, nous autres faibles mâles, sans d'autres saintes femmes ? Votre œuvre, monsieur, convertit Kilali à la certitude du péché originel dont la constante traînée dans l'histoire nous oblige sans cesse à gérer parmi nous une violence irrépressible. Face à ce modèle dur, votre vie s'accompagne d'une deuxième image féminine plus douce, plus aimable, irremplaçable. Outre ces 12 apôtres mâles, Jésus-Christ lui-même eut besoin de saintes femmes et parmi elles d'une Marie-Madeleine pour répandre sur lui le parfum et d'une Marthe pour le quotidien des jours. Voilà deux figures de l'inspiratrice nécessaire à qui se jette assoiffée par le désert de l'œuvre. La verseuse de nard précieux, accapareuse de la meilleure part reçue dans l'histoire sainte assez d'éloges, et fit le modèle d'assez de représentations profanes pour que je la passe sous silence au profit enfin de la seconde dont nul ne dit jamais mot. Toujours à la peine, jamais à l'honneur. Je la vois américaine, porteuse d'une tradition chrétienne aussi ancienne que l'immigration, solide, loyale, généreuse et douce, retirée. Vous incarnez, madame, les vertus que nous admirons depuis des siècles dans la culture de votre pays. La fidélité, la constance et la force, le conseil, la justesse de jugement, la finesse dans l'appréhension des sentiments d'autrui, le dévouement, le ressaut vif après l'épreuve, le dynamisme et la lucidité devant les choses de la vie. Sans vous, sans votre présence inimitable, peu de gens le savent et qu'ils l'apprennent aujourd'hui, les grandes pensées que j'ai la lourde charge de louer ce soir n'auraient pas vu le jour. Avec vos enfants et vos petits-enfants, dont je vois en ce moment les visages amis, vous incarnez de plus le lien entre ce qui se passa naguère dans le Moyen-Ouest de votre nouveau monde et ce qui se dit aujourd'hui à Paris en des habits antiques. Voici un citoyen français, professeur à Stanford Université, reçoit sous la coupole l'une des plus anciennes institutions de France, un citoyen américain français de naissance, professeur lui-même dans la même université. Il ne s'agirait que d'un double si vous n'assistiez point à la séance et complétiez le triangle pour une nouvelle et miraculeuse foi sans mimétisme ni rivalité. Vous liez nos deux personnes par l'affection que je porte à votre mari et à vous-même. Vous liez aussi nos deux pays dont je célèbre l'infiniment précieuse amitié. Qu'elle ait connu l'épreuve du nuage passager, la plus serrée des relations le dirait d'elle-même. Sur vos épaules, madame, repose le fond du monde. La paix règnera. L'humanité se construira mêlée, moins à l'aide de traités entre nations, moins par la politique, le droit ou les échanges commerciaux, que par d'humbles liens amoureux tissés par les femmes au mariage sans frontières. Alors, dans leur foyer, sonnent, aux merveilles, deux langues maternelles. L'harmonie à venir s'ouvre sur cette musique métisse, multipliant les chanterelles et les passerelles entre nos cultures. Madame, j'entends depuis longtemps le pont de votre voix. Monsieur, je reviens vers vous qui avez inventé l'hypothèse la plus féconde du siècle. J'ai pris un temps de repos en ces confidences douces parce que j'avais du mal à soutenir l'élévation vers la grandeur des choses que vous dites. À retenir une seule des leçons que j'en tire, voilà celle sur laquelle je voudrais finir. Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux, dont j'agitais l'horreur en mon commencement, vous avez généralisé les actions sacrificielles auxquelles s'adonnent les cultures connues. L'hémoglobine dégouline des corps des victimes humaines et animales, de ces meurtres collectifs dont vous nous dégoûtez irrémédiablement. Or, en jugeant la victime coupable et en innocentant les assassins, les fables qui les relatent mentent. Vous nous enseignez donc que la fausseté accompagne le crime et le mensonge l'homicide, l'un suivant l'autre comme son ombre. Du sang versé naissent des dieux antiques et contemporains toujours faux. Jumeaux, l'erreur et le meurtre demeurent inséparables, sublime rationalisme. Inversement, innocenter la victime amène à ne pas tuer en dévoilant la vérité. Cherches-tu le vrai, tu ne tueras point. La révélation d'innocence équivaut alors à une généalogie de la vérité à qui l'Occident, par le monothéisme juif, la géométrie grecque et le christianisme judéo-grec, tous trois critiques des mythes, doit sa maîtrise unique des raisons et des choses. De la vérité découle la morale, rationalisme sublime. Du coup, vous m'avez appris ceci qui a changé ma vie, de distinguer le saint du sacré, ni plus ni moins que le faux du vrai. Écoutez, je vous prie, la circonstance qui m'advint voici 15 ans et qui, à mes yeux, passa pour une expérience quasi cruciale du bien fondé de votre hypothèse. Jamais je n'eus devant moi des étudiants comparables aux prisonniers de Fresnes ou de la Santé. Contrairement aux élèves ordinaires, ils disposent de temps et donc force de mutisme et d'attention. À l'aise en ces lieux, j'avais en commun avec eux d'avoir vécu de longues années d'adolescence, pensionnaire en des lycées, aux architectures pareilles à leur enfermement. Ils me demandèrent un jour de parler du sacré. L'un d'eux protestait, prétendant que, rouleau d'écriture, ciboire ou pierre noire, il se réduisait à une simple convention. Arbitraire ou non, c'était la question. Fidèle à une méthode dont l'exigence refuse le cours magistral, je leur demandais de se préparer à y répondre en méditant sur la mort quelques instants à part. Et me reprenant vite, je rectifiais ma proposition ajoutant « Non seulement la mort que vous et moi allons subir de toute nécessité, mais aussi celle que l'on peut donner par accident ou volonté. » Alors, trois d'entre eux se levèrent soudain comme piqués d'un aspic. « moi je sais le sacré. » Il s'agissait des condamnés pour meurtre. Jamais je n'obtiens dans la salle un silence aussi contemplatif, extatique et prolongé devant cette évidence. Les faux dieux nous visitaient. Le saint se distingue du sacré. Le sacré tue, le saint pacifie. Non violente, la sainteté s'arrache à l'envie, aux jalousies, aux ambitions vers les grandeurs d'établissement, asile du mimétisme, et ainsi nous délivre des rivalités dont l'exaspération conduit vers la violence du sacré. Le sacrifice dévaste, la sainteté enfante. Vitale, collective, personnelle, cette distinction recouvre celle cognitive du faux et du vrai. Le sacré unit violence et mensonge, meurtre et fausseté. Ces dieux, modelés par le collectif en furie, sut le fabriquer. Inversement, le saint accorde amour et vérité. Surnaturelle généalogie du vrai dont la modernité ne se doutait pas, nous ne disons vrai que d'innocemment aimé. Nous ne découvrirons, nous ne produirons rien qu'à devenir des saints. Au cours de réunions où je regrettais que vous n'assistiez pas, notre compagnie hésita récemment à définir le mot « religion ». Vous en dites deux familles, celles qui unissent les foules forcenées autour de rites violents et sacrés, générateurs de dieux multiples, faux, nécessaires, celles qui, au contraire, révélant le mensonge des premières, arrêtent tout sacrifice pour jeter l'humanité dans l'aventure contingente et libre de la sainteté, pour lancer l'humanité dans l'aventure contingente et sainte de la liberté. Je veux finir par ce que sans doute peu de gens peuvent ouïr de leur vivant et que je n'ai jamais prononcé devant personne. Monsieur, ce que vous dites dans vos livres est vrai. Ce que vous dites fait vivre. Le sacrifice épuisé, nous ne nous battrons plus que contre un seul ennemi, l'état où nous désirions réduire l'ennemi lorsque jadis nous nous battions. Alors, seul adversaire en ce nouveau combat, la mort vaincue laisse place à la résurrection, à l'immortalité. Madame la secrétaire perpétuelle, permettez-moi maintenant, comme entorse au règlement, de quitter sur le mot terminal le vouvoiement cérémoniel, en cette compagnie d'ego, fière de te compter parmi eux, entre maintenant, mon frère.
C'était l'allocution du philosophe français Michel Serres, membre de l'Académie française, également professeur à l'Université Stanford aux États-Unis aux côtés de René Girard et donc un proche de ce dernier. C'est la fin de notre émission consacrée à l'élection de René Girard à l'Académie française. Vous pouvez réécouter l'émission en entier ou quelques extraits dans les archives du site www.canalacademie.com.